Georges Pompidou l'a dit, c'est à cause de notre langue que nous existons dans le monde autrement que comme un pays parmi tant d'autres. Oui, mais les autres, mon Georges, ceux qui partagent la même langue, on les met où alors? Lorsqu'on est francophone, on doit être fier de parler la langue de plusieurs dizaines de millions de personnes dispersées sur 5 continents, faisant toute partie de la grande francophonie. Mais combien sommes-nous au juste? En parlant de francophonie, on finit par avoir l'impression d'être dans la francacophonie, car nul ne semble tout à fait heureux, ni de l'appellation, ni de l'imprécision du nombre de personnes ayant en commun l'usage du français sur cette terre. Au ciel, on le sait, Dieu parle français. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel français et avec quel accent. Et si la francophonie ne servait qu'à allumer la nostalgie d'une gloire perdue? Et si, comme un bâton rouge chez les nez percés, comme au Troubiche, à Montréal ou au Grand Éton, ce n'était que la trace furtive d'un regard, d'une émotion venue d'un passé royal et paysan à la fois? La francophonie, un bien vilain mot, disait Simenon. Jean-Marc Léger, président de la Fondation Lionel Gros, trouve, lui, le terme discutable mais commode. Quant à Maurice Druon, secrétaire perpétuel de l'Académie française, il eût préféré que l'on dise plutôt « pays ayant la langue française en partage ». L'ex-ministre de la Culture, Jacques Toubon, ne l'aime pas non plus, parce que selon lui, ce n'est pas un mot porteur et qu'il n'est même pas beau. Certains attribuent l'invention du mot à Léopold Sédar Senghor. En fait, celui-ci a inventé le mot « francité » afin qu'il serve à décrire, avait-il dit, par-delà la langue, la civilisation française, plus précisément l'esprit de cette civilisation, c'est-à-dire de la culture française. L'usage du terme francophonie remonterait, semble-t-il, à 1880, date à laquelle un géographe français l'employa pour la première fois pour désigner l'ensemble des espaces où la langue française était utilisée dans la vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, la francophonie existe. Mais on a beau être 10 millions de locuteurs français dans le monde, il arrive pourtant qu'on ne se comprenne pas. Les Français qui traversent la Grande Mare pour aller fraterniser avec leurs cousins d'Amérique, ou les Québécois qui visitent la terre de leurs ancêtres, connaissent le problème depuis longtemps. Les nombreuses dissemblances que l'on trouve dans la langue française créent fréquemment des quiproquos, des confusions et de fâcheux malentendus. Nul francophone n'est à l'abri de bourdes ou de bévues qui pourraient lui devenir fatales en Suisse, en Belgique ou dans quantité de pays d'Afrique où un chien ne s'appelle peut-être pas un chien mais plutôt un chat. L'habitude de certains Français de brocarder la prononciation québécoise ou celle de certains Québécois de ridiculiser le parler pointu des maudits français, encore la xénophobie que certains francophones blancs affichent contre les Africains, n'ont rien pour arranger le minable cocorico linguistique de notre belle francacophonie. La première fois de ma vie que j'ai pris conscience que le français parlé au Québec et celui pratiqué en France présentaient des différences, c'est ce fameux jour d'été où, après avoir débarqué au Canada, j'ai pris l'initiative de m'offrir une petite boule de glace à la vanille dans un cornet. Je me suis donc rendu chez un dépanneur, non pas ce qui en France aurait été chez un mécanicien réparateur, mais dans une échoppe appelée au Québec dépanneur, c'est-à-dire un petit magasin qui reste généralement ouvert au-delà des heures d'ouverture des autres commerces. « Je voudrais une glace, s'il vous plaît, » commandai-je au vendeur. « Tu veux quoi au juste ?» me demanda-t-il en me tutoyant avec une sensible pointe de condescendance. « Une glace, monsieur, s'il vous plaît. » Sa réponse ne s'est pas fait attendre. « De la glace ? J'en passe ici de moi, mon homme !» Pourtant, ce n'était pas un mirage. J'avais bien vu de mes yeux vus des clients sortir de chez lui en léchant goulûment un rafraîchissant cornet. Aussitôt, j'ai eu un petit doute. Refusait-il de me servir à cause de mon accent français, de France ? Serait-il xénophobe ? En ce cas, il valait mieux l'apprendre tout de suite. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis retourné affronter le malveillant à son comptoir. « Pardon, monsieur, lui dis-je, il y a quelques minutes, je suis venu ici pour vous acheter de la glace et vous m'avez dit que vous n'en vendiez pas. »« Oui, alors ?» m'a-t-il répondu un peu étonné. « Je n'en vends toujours pas. » Et à ces deux personnes qui viennent juste de sortir d'ici, vous leur avez vendu quoi ? Ça ? Bah, pas de la glace, hostie, c'est de la crème à glace. Si tu parlais comme du monde, le monde, il te comprendrait. Ce sur quoi ils n'avaient pas entièrement tort. Si tout le monde parlait comme tout le monde, bah, tout le monde se comprendrait. Pour tout dire, je n'étais pas au bout de mes angoisses. À une autre occasion, j'ai voulu m'offrir une petite confiserie. Alors je suis entré dans un petit magasin et j'ai demandé à une brave jeune et belle vendeuse, transparente de pureté, « Pourriez-vous me donner une sucette, s'il vous plaît ?» À la place d'une sucette, j'ai eu droit à une gifle. Pourtant, je le jure sur mon honneur, je n'avais aucune arrière-pensée. Sauf que j'ignorais qu'au Québec, un suçon s'appelle une sucette et qu'une sucette, c'est un suçon. L'avoir su, je n'aurais jamais risqué de me couvrir de ridicule en demandant une petite marque d'affection à une candide vendeuse qui aurait pu faire mon bonheur en me vendant tout simplement un innocent petit bonbon en sucre cuit aromatisé.
C'est beau, la famille.
Pendant des jours et des jours, je n'avais cessé d'admirer secrètement Monique, une jolie voisine, sans jamais oser l'accoster. Un beau jour, alors que je ne la voyais plus, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et aller demander à une de ses amies où était passé le bel objet de mes désirs. « Monique ? Oh, elle devrait être de retour sous peu, me dit-elle. Mais où elle est ? Rassure-toi, elle est partie pour la famille. » Bon, la nouvelle m'a chagriné, mais l'imaginer loin, heureuse, aimée et entourée de sa famille me consolait. D'autant que, comme son départ ne semblait pas être définitif, l'espoir de la retrouver n'était pas perdu. Je l'ai effectivement retrouvée quelques mois plus tard. Monique portait un joli bébé dans ses bras. C'est là que j'ai compris que plus rien ne pouvait empêcher sa famille de souhaiter un rapprochement entre ma jolie voisine et moi. J'ai aussi appris, par la même occasion, qu'au Québec, empêcher la famille signifie limiter les naissances et que partir pour la famille voulait dire tomber enceinte. Lentement, je m'initiais aux joies insoupçonnées du français universel. Mais jusqu'ici, je n'avais vu que la pointe de l'iceberg. Je ne pouvais pas me douter que la base du glacier polaire allait me réserver bientôt d'autres surprises.
La belle Canadienne.
Dis-moi quels mots sortent de l'enclos de tes dents, je te dirai qui tu es et l'état de la société dans laquelle tu vis, disait Homère, qui ne parlait pourtant pas le français. Sans nécessairement avoir sa clairvoyance, le touriste ou l'immigrant qui veut éviter de se couvrir de ridicule doit apprendre à jongler avec la sémantique ayant cours dans le pays où il débarque. C'est ainsi qu'installé depuis peu à Montréal, une brave immigrante française se plaignait à sa voisine de la rigueur des hivers canadiens. « Depuis que nous sommes arrivés à Montréal, lui dit-elle, je n'ai qu'une idée en tête, offrir une belle Canadienne bien fourrée à mon mari. » Au Québec, « fourrée », soit dit en passant, signifie « baiser ». La confidence de la française, on s'en doute, n'a pas manqué de faire rougir son amie québécoise. « Vous savez, on a une très belle entente entre mon mari et moi », a pris le soin de préciser cette petite Française. « C'est le moins qu'on puisse dire », commenta la Québécoise. Et, tant qu'à être dans les confidences, l'immigrante a ajouté, « Pendant que mon mari travaille à l'extérieur, moi je reste à la maison pour prendre soin de ces deux gosses. Parce que les gosses, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. Je m'en occupe avec amour et dévotion. Pour rien au monde, je ne voudrais confier cette tâche à quelqu'un d'autre. » Il faut savoir, bien sûr, pour bien apprécier l'anecdote, qu'au Québec, quand on parle de gosse, on parle de testicules. Du coup, la brave Québécoise s'est sentie réellement confuse. N'y avait-il pas une légère contradiction dans les propos de la Française qui, un peu plus tôt, magnanime, avouait offrir une Canadienne bien fourrée à son mari et maintenant, elle dit qu'elle refuse catégoriquement de confier les bijoux de famille de son mari à qui que ce soit. Décidément, les Françaises n'ont pas volé leur réputation. Dans le même registre, il convient de rappeler ce film français qui a déjà fait fureur au Québec, peut-être pas tant par son intrigue que par la délectable et absurde clarté de son titre. Comment peut-on être père sans gosse ? Un autre film, celui de Joe Johnston, sorti en France sous le titre de « Chérie, j'ai rétréci les gosses », a dû être rebaptisé au Québec par « Chérie, j'ai réduit les enfants ». Disons que ça n'a rien changé au contenu du film, ça l'a juste rendu un peu moins hilarant.